Le projet est parti d'une idée d'un Tumblr, donc d'un blog, dans lequel on recensait plein de femmes qui avaient fait des choses incroyables et qu'on constatait, pour lesquelles on constatait qu'elles n'étaient pas connues. Donc ça, c'était une volonté commune en fait, de travailler sur la meilleure visibilité des femmes dans l'espace public en général, et dans l'histoire, dans les livres d'histoire. Voilà. Et puis on a été contactés ensuite par la maison d'édition, qui a souhaité faire un livre de ce blog, et ça a donné Ni vu ni connu.
On avait mis en route le Tumblr en 2015 en espérant faire pas mal d'actions autour de ce Tumblr, notamment pour améliorer la visibilité. Et écrire un livre et pouvoir le diffuser, c'était un projet qui était plutôt enthousiasmant. Donc on était au centre Georgette Sand hyper motivés pour participer au projet. Quoi. Enfin, en tout cas, il y a eu une sorte d'unanimité à réaliser et à écrire ce livre. Quoi.
De remettre les femmes dans l'histoire, on arrête de les minimiser, de minimiser leur rôle. Et après, en fait, notre livre, il a des clés pour aujourd'hui. C'est si on arrête de se minimiser, de s'invisibiliser, c'est notre rôle de tous les jours. On doit signer un travail, parler, prendre la parole, faire dépasser la tête du rang. On ne sait pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit. Et voilà. Et toutes ces femmes, elles sont sorties du rang. Ou alors on les a écrasées. Et ben non, c'est fini, on ne nous écrase plus et on va sortir la tête du rang. Voilà.
Il y a aussi une question d'exemple et de référence. C'est pour donner aussi aux élèves, aux étudiantes, aux petites filles, des exemples de femmes qui ont réussi, qui ont pu faire des choses. On manque de référence aussi quand on est enfant et on se dit finalement il n'y a que les hommes qui ont fait des choses. Et c'est très triste parce que ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est que comme dit Michel Perrault dans la préface, l'histoire c'est ce qui s'est passé et le récit qu'on en a fait. Et en fait, c'est tout à fait ça. Et le récit qu'on en a fait, le récit a été fait par des hommes, et du coup pour des hommes. Et du coup, les rares figures qui ont été expliquées dans les livres d'histoire sont souvent, à part Jeanne d'Arc ou deux, trois profils comme ça, c'est des rôles minimes. Quand on apprend ça depuis toute notre enfance, on intègre aussi cette idée-là que la femme, elle est juste cantonnée au rôle privé, dans la sphère privée, ou alors c'est une danseuse, ou... prostituée ou peu importe, enfin, mais c'est vrai qu'on a tendance à intégrer cette minimisation du rôle de la femme. Et le fait d'écrire sur les femmes de l'histoire, ça a aussi pour vocation de donner un vrai exemple.
Ni vu, ni connu. Panthéon, histoire, mémoire, où sont les femmes? Paru aux éditions Hugo Doc. Collection Les Simones.
Alors d'abord, le mécanisme majoritaire, c'est pas vraiment d'un homme, mais c'est l'auto-invisibilisation. Mais en fait, tout ça fait partie du même système. Ça fait partie d'un système dans lequel les hommes sont plus éduqués à prendre la parole, à valoriser leur travail, à considérer qu'ils ont un apport en fait intellectuel à apporter à la société, alors qu'une femme a cette place, ce rôle très domestique, très sur des professions de soins, de douceur, de tout ça. Du coup, oui, bien sûr, le fait que des hommes s'approprient le travail d'une femme, c'est le symptôme de ce système-là.
Je pense que c'est structurel, hein, c'est quelque chose qui est inculqué, en fait, de façon qu'on pense naturelle. Hein. C'est-à-dire, comme disait Élodie, on éduque les garçons à prendre la parole, à prendre des décisions, à être forts, à dominer, entre guillemets. On éduque les petites filles à être sages, à se taire, à écouter, à surtout à être discrètes, quoi. Enfin, entre autres choses. Et que du coup, tout ça fait qu'on a des comportements qui s'émanent, c'est-à-dire l'un va dominer, l'autre va être dominé. Et au final, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a un rapport de domination. Parallèlement à ça, il y a aussi, d'un côté, on donne des avantages à quelqu'un. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de renoncer à ces avantages. quand il y a un rapport déséquilibré qui s'est créé, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre des personnes racisées et d'autres personnes racisées, hein, il y a, pour rétablir l'équilibre, il faut qu'une partie, hein, ceux qui ont les privilèges, renoncent à leurs privilèges, enfin, en tout cas à une partie de leurs privilèges. Et ça, c'est compliqué. Et une grande partie de ces personnes ne veulent pas renoncer à leurs privilèges.
Le titre du livre, c'est « Ni vu ni connu ». Et en fait, nous, pour être connu, il faut être vu. Donc, il faut toutes ces femmes dans le bouquin, et les femmes en général, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut lire leurs livres, aller voir leurs expositions, écouter leur musique et sponsoriser, enfin, pas sponsoriser leur travail, mais visibiliser leur travail. Et alors là, justement, dans les annonces du ministère de la Culture, ils veulent pas créer des quotas, mais peut-être donner plus d'argent aux salles de concert ou aux musées qui consacreraient plus de place aux artistes femmes. Et il y en a, parce que certaines personnes disent « Ah oui, mais vous voulez faire ça, mais il n'y a pas d'artistes femmes, il n'y a pas de peintresses, on va pas, il n'y a pas de compositrices, etc. » Mais s'il y en a, c'est juste qu'on ne les connaît pas assez parce qu'on ne les voit pas, en fait. Donc ça, ça va quand même dans le bon sens. Après, il y a un gros, gros travail à faire dans les manuels scolaires. Sur les noms de rue, ça change beaucoup. On est passé, je crois, de 2 à 6% en quelques années de noms de rue. Voilà. Et après, c'est pareil, les noms de musées. Ouais, 6%, c'est vraiment nul, mais c'est déjà mieux.
Je crois qu'on est 52% de la population, en fait.
Ça passe par l'éducation, oui, à l'école, ça passe par l'éducation à la maison, ça passe par les médias, ça passe par la publicité, ça passe... Enfin, c'est tellement multifactoriel, en fait, c'est tellement ancré partout, dans chaque centimètre carré de la société, qu'effectivement, ça prend un temps fou parce que ça doit être changé absolument partout. Et donc, petit à petit, pas à pas, on y arrive. Mais c'est un travail de titan, en fait.
Ça passe par moi pointer du doigt. Ça passe par écrire des livres qui mettent en avant des femmes qui ont participé à l'histoire, que ça soit de l'Antiquité jusqu'à nos jours, alors que dans la conscience collective, les femmes n'ont existé historiquement qu'à partir du 19e, 20e siècle. Et en fait, c'est juste remettre les choses en place, c'est juste de rétablir aussi les choses.
Comme on explique dans l'introduction, la pomme dans laquelle Ève a croqué, elle est super pratique parce qu'en fait, ça a servi à coller plein d'adjectifs aux femmes. Elles sont manipulatrices, elles peuvent mentir, etc. Et en fait, elles ont été cantonnées à un certain rôle. Par exemple, on explique par exemple la Nerl Mozart dans la religion. Son père voulait pas qu'elle fasse de musique parce qu'une fille de bonne famille devait pas faire de musique, elle devait se marier, faire des enfants, et alors qu'elle était aussi prodigieuse que son frère, et ben une fille dans la religion ne fait pas de musique, donc on l'a mariée et elle a plus jamais fait de musique et elle s'est laissée abattre.
Le christianisme a une mauvaise image des femmes, en fait, c'est qu'ils font partie d'un système, que ce soit le christianisme ou toute autre religion ou toute autre... forme de pouvoir, entre guillemets. À l'époque, le christianisme était une forme de pouvoir, et en fait, il exerçait un système de domination de l'homme sur la femme qui existe depuis, on a l'impression, la nuit des temps, et il s'appuie sur plein d'exemples, Ève, la pomme et d'autres, pour justement créer ce rapport de domination et séparer les pouvoirs, c'est-à-dire que l'homme avait un rôle social, la femme avait un rôle domestique. Aucun des deux, enfin, que ce soit l'homme ou la femme, devait absolument respecter les rôles qui leur étaient assignés. Au Moyen-Âge, par exemple, où ces deux rôles étaient très bien définis, il y avait à un moment donné une tolérance pour les femmes de sortir de leur rôle domestique, d'exercer des métiers, notamment ceux de médecin, elles étaient gynécologues, par exemple. Quand l'État et quand la religion a repris un rôle important, on les a rebasculés vers leur rôle domestique, j'arrête pas de le dire, mais, et toutes les femmes qui outrepassaient ce rôle-là étaient considérées comme sorcières, par exemple. Les sorcières, c'était des médecins, en fait. Il y a toujours un système qui vise à dominer un être sur un autre être. Et le plus souvent, c'est l'homme sur la femme.
Charlotte, Perrine, Élodie, Marguerite, Anne, du collectif Georgette Sand, présente Ni vu, ni connu.
Je ne sais pas si j'ai vraiment eu un déclic, ça a été vraiment très progressif et je me suis... je pense que j'ai accumulé plein de choses au fur et à mesure. Et j'ai rencontré une des femmes du collectif qui donnait des cours à l'époque, qui m'a parlé du collectif, du projet du livre, etc. Et elle m'a vraiment bien vendu le truc. Ça m'a interpellée, je me suis dit mais oui, mais c'est vrai qu'on parle pas des femmes dans l'histoire. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je m'étais déjà intéressée à plusieurs profils comme celui de Camille Claudel ou celui de Sappho, qui m'avait beaucoup interpellée, où j'avais déjà remarqué les processus d'invisibilisation qui les avaient enterrés. Et vraiment, c'est un sujet qui m'a parlé et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment me plonger dans les autres sujets féministes. Mais finalement, c'est assez récent hein, pour moi, donc voilà.
Moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup, beaucoup de femmes hein, et des femmes qui encouragent les femmes à prendre la parole et à s'exprimer, à dire ce qu'elles pensent. C'était la normalité en fait. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, au lycée, puis au travail, j'étais surprise de voir que quand je prenais la parole ou quand j'exprimais un avis ou quand j'essayais de m'affirmer, on avait tendance à trouver ça pas convenable en fait, à plutôt me faire remarquer que ce n'était pas ma place. Je suis partie surtout d'un constat d'un questionnement en disant mais pourquoi il y a une différence de traitement entre les filles et les garçons en fait, que ça soit à l'école, au lycée ou au travail hein. Pourquoi on me fait des remarques sur comment je m'habille hein. Pourquoi on me fait des remarques sur la couleur de mes cheveux, sur mon maquillage et sur la façon dont je parle alors qu'on ne fera pas ces mêmes remarques aux garçons. Et du coup, pareil, j'ai pas mal intériorisé et puis au fur et à mesure, on intériorise et un jour, on explose. Hein. Pour une raison complètement stupide, hein, la remarque de trop, hein, et voilà.
Un déclic en particulier, pas vraiment. Après, c'est vrai que cette espèce de prise de conscience de je me minimise, je sais pas valoriser mon travail, quand je fais quelque chose de bien, j'arrive pas à l'entendre, j'arrive surtout pas à le dire. C'est quelque chose qu'on intériorise vachement, même si nos parents, moi, ma mère m'a jamais éduquée comme ça, mais c'est tellement présent dans la société que j'avoue que j'ai pris ce pli-là. Et en fait, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit qu'il fallait déjà que j'arrête de le faire et que j'aide d'autres à prendre conscience de ça pour arrêter de le faire et pour que de façon systémique, on ait plus de visibilité. Et en fait, ce livre-là, c'est une action en ce sens, c'est redonner de la visibilité à des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être visibles de leur vivant, quoi. Michel Perrault, c'est l'historienne référence sur la place des femmes... la place des femmes dans l'histoire. Du coup, c'est vrai que c'était un peu l'idéal auquel on osait à peine croire. Et quand elle a accepté, on était éblouis de bonheur, en fait.
En fait, Michel Perrault, elle a fait beaucoup de préfaces, en fait. Il y a même une chercheuse qui a travaillé sur les préfaces de Michel Perrault. Elle est toujours très contente de travailler sur le travail des autres, d'aider les autres à faire de la recherche, quoi. Donc je pense que c'est une démarche qu'elle a depuis longtemps, en fait.
En fait, le ton humoristique, on a choisi de le prendre pour rendre accessible le livre à un plus grand nombre. On voulait qu'en fait, on puisse poser le livre sur une table, lire une fiche de temps en temps, et que ce soit pas rébarbatif, que ce soit juste agréable à lire, et que, ouais, enfin... Qui est pas de... Puis bon, comme on vient tous de milieux différents, on n'est pas écrivaine chacune, on n'est pas autrice, forcément. Et du coup, on voulait que nous, si on avait ce livre-là entre les mains, on soit contente de le lire, quoi. On soit contente de lire chaque fiche et qu'il n'y ait pas de choses trop complexes, quoi.
On a essayé dans le livre, il y a 75 femmes, de vraiment avoir tout l'éventail des invisibilisations possibles. Donc on en a recensé plusieurs. Donc il y a par exemple l'auto-invisibilisation, se faire voler son travail, une femme de pouvoir qui a eu trop de pouvoir, donc on a voulu assombrir sa légende. Voilà.
Après oui, on a fait un travail historique et bibliographique, c'est-à-dire que toutes les femmes qu'on a décrites dans le bouquin, on s'est appuyé sur des bases bibliographiques assez solides pour justement montrer qu'elles ont existé. Enfin, c'est important de parler de femmes qui ont existé et qui ont participé à l'histoire, que ce n'était pas juste des légendes et que... Et du coup, oui, le choix des femmes s'est fait sur des preuves historiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu des travaux de chercheurs et de chercheuses avant. Il y a des documents sur ce qu'elles ont fait, sur leur existence, etc. Donc c'était important, en fait, que ça ne soit pas un recueil de légendes, entre guillemets, quoi.
Ça nous est arrivé de supprimer des profils, justement, parce qu'on est faute de sources et faute de preuves concrètes de leur existence.
Histoire et portrait de 75 femmes. Ni vues, ni connues. Publiées. Chez Hugo Doc.
Tous les mouvements qui ont eu lieu là cette fin d'année 2017 sont vraiment une bonne chose pour l'évolution de la situation. Ça a soulevé plusieurs débats. Enfin, les mouvements MeToo, Balance ton porc, on a remarqué qu'il y avait un grand élan de sororité, un besoin d'exprimer les choses et de faire prendre conscience, enfin, une vraie prise de conscience de l'étendue. En fait, on savait qu'il se passait toutes ces choses, mais on n'avait pas conscience de l'étendue du phénomène. Et je pense que ces buzz-là, enfin, si on peut parler de buzz, ont soulevé d'autres questions, même par rapport au langage, l'écriture inclusive, qui, à mon sens, ont une vraie importance et sont vraiment le début de quelque chose. Ouais.
Toutes ces violences, je pense qu'on savait qu'elles existaient. Tout le monde a fait semblant de découvrir tout ce qui se passait, mais c'est juste qu'en fait, on ne voulait pas voir. Et toutes les femmes avaient intériorisé le fait que c'était normal, que pour rentrer chez soi, on met des écouteurs parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé, qu'on ne passe pas par les coins sombres. Tout ça, les femmes l'avaient intériorisé, et beaucoup d'hommes et certaines femmes ne voulaient pas le voir, et on a fait semblant de le découvrir. Donc... Moi, ça m'a un peu fait rire, et le seul truc, c'est que tant mieux que les femmes aient aujourd'hui pu parler. Moi, j'imagine un peu ça comme un énorme bouton plein de pus, et là, on a éclaté le bouton. Désolée, faut pas mettre ça.
Tu peux couper ça, s'il te plaît.
C'est exactement ça, tu sais, quand t'as exulté un truc incroyable.
Non, mais il y a aussi l'effet fil que tu tires, et au final, il y a une personne qui s'exprime, l'autre se dit « Ah bah tiens, moi aussi, je peux parler, etc. » Et tu tires. Et voilà, poupée russe, ouais. C'est tout à fait ça. Et tu découvres l'ampleur du phénomène en creusant.
C'est un peu comme le truc de Barack Obama, des conseillères de Barack Obama, où on s'appuie sur l'une et l'autre. Parce qu'en fait, ouais, quand on voit qu'il y en a une qui va parler, on se dit « Allez, je me sens forte parce qu'il y en a une qui a déjà parlé. » Et après, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et en fait, là, on s'est senti légitime de parler, et voilà, quoi.
Et en fait, tout ça, pour moi, ça fait écho à un gros dysfonctionnement... Le terme balance dans le balance ton porc a été beaucoup critiqué, on a parlé tribunal populaire, etc. Je l'entends complètement. Après, en fait, ça fait écho à un vrai dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un quart des plaintes pour viol qui aboutissent. Donc forcément, en fait, quand on est victime, déjà, les refus de dépôt de plainte par les forces de l'ordre, ça arrive, même si les forces de l'ordre sont de plus en plus formées, et c'est vraiment une bonne chose, il faut continuer en ce sens. Mais pour moi, ça dénote aussi un problème au niveau judiciaire, au niveau de la prise en charge des victimes. C'est-à-dire que ça aurait pas été nécessaire si on n'avait pas tant de déficiences par ailleurs.
Moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est l'espèce de blague débile. Parce que, par exemple, toute ma famille sait que je suis féministe. Et du coup, le dimanche au repas, c'est des vieilles remarques à 2,50 € pour que je parte au quart de tour. Et ça me fait plus rire du tout. Et ça, c'est hyper sexiste, par exemple. Ça m'énerve. Je sais pas si c'est possible.
Ça serait plutôt une étude d'écoute et essayer de comprendre, hein, d'écouter, d'avoir de l'empathie et de se mettre à la place. Hein. Enfin, surtout quand on parle d'une personne qui a des privilèges avec une autre personne qui en a moins. C'est valable pas forcément avec le féminisme, mais juste se rendre compte qu'on a des privilèges et que d'autres en face n'en ont pas. Et quand l'autre personne se plaint de l'absence de privilèges, bah de l'écouter et pas d'essayer de minimiser ou de croire que c'est un fantasme, entre guillemets. Juste de l'écouter, d'en prendre conscience et de l'intégrer, en fait. Parce qu'en l'intégrant, on change notre comportement. Le comportement, il change pas du jour au lendemain. C'est pas, on se réveille pas un jour, je suis féministe.
Ça demande beaucoup d'efforts intellectuels, en fait, de déconstruire déconstruire tout ce qu'on a appris depuis qu'on est né. Parce qu'en fait, depuis qu'on est né, on a des biais sexistes, que ce soit les garçons, les filles, et même les garçons d'ailleurs ont des biais sexistes. Un garçon doit être fort, ne doit pas pleurer, etc. Et en fait, ça demande beaucoup d'apprentissage, peut-être de lecture, de prise de conscience, de déconstruction. Donc en fait, ceux qui bâchent les féministes, c'est peut-être de la flemme intellectuelle, tout simplement, en fait, je pense, qui n'essayent pas de comprendre. C'est tellement simple de se baser sur quelque chose qu'on connaît depuis toujours, et voilà.
Sous prétexte de nature.
C'est dans la nature. Finalement, tu prends pas la peine de te poser la question de bah, est-ce que vraiment c'est dans ma nature, ou est-ce que juste j'ai été éduquée comme ça et que mes parents ont été éduqués comme ça, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Un bon allié, pour moi, c'est juste quelqu'un qui se pose des questions et qui balaye pas du revers de la main tout ce qu'on lui dit sous prétexte que ben, dans ses convictions profondes, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais peut-être que ça vaut la peine de s'interroger, en fait.
Et c'est une recul avec lui-même et avec la société dans laquelle il vit, quoi.
C'est une forme de minimisation, de minimiser nos aspirations. C'est encore une autre invisibilisation de nos demandes et de la minimisation des femmes en général et des autres minorités, quoi. Une chose aussi, c'est on s'entraide beaucoup dans Georgette et dans Georgette Sand. La vie de collectif et la vie militante, ça aide beaucoup à s'autonomiser et à se conscientiser, etc. Et chez Georgette, on invite tout le monde à réfléchir et à prendre conscience des choses, à prendre en main les projets, parce qu'on est un collectif. Donc si on a envie de travailler sur un projet, ben, on y va à fond et tout le monde va nous soutenir. Et le fait qu'on soit soutenu, qu'on soit... On est un collectif mixte, mais le fait qu'il y ait beaucoup de sororité, de bienveillance, de bienveillance dans Georgette, nous porte d'une manière incroyable et on se sent forte. Enfin, moi, ça m'a aidée à me sentir légitime quand j'ai eu des problèmes au travail, quand j'ai eu des problèmes dans le bus et d'emmerder par des mecs, et je me sentais légitime et forte, en fait, tout simplement. Et que j'étais pas toute seule.
Ni vu ni connu, par le collectif Georgette Sand, paru aux éditions Hugo Doc, collection Les Simones